La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Cube Radio.
Le 23 août, j'arrivais de ma job. Le monde me disait, on cherche Valérie. On la trouve pas. C'est pas normal. Elle nous appelle toujours. Fait que là, moi, je suis parti puis j'ai commencé à tout faire les trails parce qu'on m'a dit que des fois, elle allait faire de la lecture près d'une trail. Puis quand j'ai arrivé, c'est là que tous les rubans étaient là, la police était là, toute la quête, les gros flashers, les journalistes. Là, j'étais là, what the fuck. Là, mon cousin m'a regardé, je pense qu'elle est plus là, même.
Écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le cas Valérie Leblanc. Quand notre équipe a commencé à s'intéresser à l'histoire de Valérie Leblanc, tout ce qu'on lisait avait rapport aux circonstances atroces dans lesquelles le corps a été retrouvé. Dans le dernier épisode, on a parlé amplement des rumeurs qui circulaient à propos du meurtre. Ça a fait en sorte que le cas Valérie Leblanc est presque devenu une légende urbaine en Outaouais. Au-delà des rumeurs et des reportages, il y a une famille qui a encore de la difficulté à faire son deuil parce que le meurtrier court toujours. On est allé à la rencontre de la famille Leblanc pour savoir comment ils ont vécu la tragédie.
Valérie, c'était ma nièce, puis ma filleule. Moi, j'étais son parrain. À toutes les fois qu'elle venait à la maison, venait faire un tour chez moi, chez mon frère à côté, on passait du temps ensemble parce qu'elle aimait la musique et j'aimais la musique et on était très proches.
Lui, c'est Yves Leblanc, le parrain de Valérie. Yves a été très important dans la vie de sa filleule. Pour nous, c'était un personnage clé dans l'histoire parce qu'il a été très présent quand Valérie est morte, tout en se faisant discret en public. C'était pas lui qui rencontrait les journalistes ou qui posait les questions dans les points de presse de la police. C'était plutôt la grand-mère de Valérie, Huguette Leblanc, qui était la figure publique de la famille. On y reviendra plus tard. Yves Leblanc s'est rendu au cégep le 23 août 2011, comme on l'a entendu au début de l'épisode. C'est lui qui a identifié le corps de sa filleule le soir du drame. On a cherché des témoignages ou des entrevues qu'aurait accordé Yves, mais on n'a rien trouvé. On a donc fait des démarches pour le convaincre de prendre la parole pour la première fois en public. Yves a finalement accepté de nous rencontrer selon une condition. Il était plus à l'aise qu'on se voit dans un lieu public, soit un Tim Hortons ou un parc. Nos discussions avaient lieu pendant une canicule, alors on s'est donné rendez-vous dehors, dans un parc à Gatineau. On a commencé notre discussion en parlant de Valérie.
Mes souvenirs de Valérie, c'est qu'elle avait un grand cœur. Elle aimait le monde. Elle aimait être entourée de monde. Elle aimait aider le monde. Puis elle était ouverte à tout ce qui est positif. Puis elle aidait les gens, puis elle partageait, puis elle écrivait, puis elle donnait des textes. Puis il y a des adultes qui étaient tellement touchés qu'ils traînent encore ça aujourd'hui, puis en parlent encore. Tu sais? Ah ouais, elle était très agile, très intelligente. Elle était bonne dans les études. Elle réussissait dans tout. Ouais. Elle lâchait pas. C'était Valérie, là, une vraie lumière.
En arrivant dans le parc, je dois avouer que j'étais un peu mal à l'aise de venir parler au parrain d'une jeune fille sauvagement assassinée alors qu'on était entouré d'enfants qui jouaient dans l'eau. Mais quand Yves a commencé à me parler de la bonté et de l'innocence de sa filleule, le contexte a pris une toute autre dimension. C'est ça aussi qui est frappant. Valérie n'était pas une adolescente troublée.
Valérie a toujours appelé. On a toujours été la chercher. Puis s'il y avait quelque chose, elle nous appelait. Puis elle n'a jamais fait de fugue, elle n'a jamais eu de problème d'adolescence, que ce soit alcool, drogue, n'importe quoi. Elle a toujours été clean, honnête, franche. Puis quand ils ont dit qu'elle ne trouvait pas, on savait que c'était pas normal. Fait que on s'est tous mis à la chercher, chacun de notre bord.
Quand Yves est arrivé au cégep et qu'il a vu les voitures de police et les journalistes, il savait que les nouvelles n'étaient pas bonnes, même si le corps n'avait pas été identifié. Yves a décrit de quoi avait l'air sa filleule, et avec la description, les enquêteurs ont confirmé que la victime était bel et bien Valérie Leblanc.
Il y avait un autre journaliste qui était là, puis il disait « viens ici », puis il dit « passe par ici, tu peux peut-être voir plus qu'est-ce qui se passe », puis ouais, ça, c'est pas beau l'histoire. Fait que là, les policiers ont dit « attendez ici ». Il dit « sais-tu où son père ?» Je dis « ben, il est chez eux ». OK, il dit « on va aller le voir ». Fait que là, on est parti de là. On s'est en été chez mon frère. C'est là qu'ils ont annoncé à mon frère que sa fille était décédée.
Si on recule à l'épisode 1 de la série, on se souvient que ce sont les grands-parents de Valérie qui sont partis à sa recherche au cégep. La mère de Valérie a appelé ses amis, mais est allée se coucher. C'est la même chose pour le père de Valérie. Il est resté à la maison pendant que son frère Yves cherchait partout dans le parc de la Gatineau. Tout ça a contribué à l'étrangeté du cas. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi les parents étaient en arrière-plan. Je le disais plus tôt, c'est la grand-mère paternelle de Valérie, Huguette Leblanc, qui a été la représentante de la famille dès le jour 1. Elle était toujours disponible pour répondre aux questions des médias et elle cherchait des réponses auprès de la police.
Elle me disait, « Grand-mère, quand tu voudras être avec moi, viens en forêt. » C'est sûrement un rêve.
Malheureusement, Huguette est décédée en 2016. Louis-Denis Ebacher, journaliste au Fait divers pour le quotidien Le Droit, a eu la chance de rencontrer Huguette Leblanc à plusieurs reprises.
Elle était extrêmement disponible, c'était à chaque instant, tu sais. Je me rappelle, la dernière fois que j'ai parlé, c'était à un des anniversaires de son décès. Je pense que c'était au 5e anniversaire de son décès, 2016, ouais. En appelant chez eux, ben c'était le mari de Mme Leblanc, Monsieur Leblanc, qui nous avait répondu. Puis il m'a dit, ah, là, elle est malade, ça file pas, puis tout ça. Puis en arrière, j'ai entendu, c'est-tu le droit, ça? Passe-moi là, tu sais. J'ai fait... Elle lâchera jamais, tu sais. J'ai fait, elle l'a en tête, tu sais. Fait qu'elle a pris le téléphone, t'as dit, oui, bonjour, Louis-Denis, tu sais, elle se rappelle du monde. Puis, ben, moi, je l'ai fait comme ça avec plein d'autres journalistes, ben d'autres, c'est sa famille, tu sais.
Louis-Denis a raison. Tous les autres journalistes rencontrés ont dit la même chose. Huguette aurait fait n'importe quoi pour pas qu'on oublie sa petite fille. J'ai demandé à son fils, Yves Leblanc, de nous parler de la relation entre Huguette et Valérie.
C'était sa grand-mère. Elle était pleine d'amour pour elle. Elle l'adorait. Elle l'aimait. Elle était fière d'elle. C'était la prunelle de ses yeux. Puis quand ça l'est arrivé, ça l'a détruit. Ça lui a brisé le cœur. Puis depuis le meurtre de Valérie, elle était déjà bien malade d'avance. Puis elle était sur ses dernières années. Puis ça, quand ça l'est arrivé, ça l'a achevé. Puis avant de mourir, son rêve, c'était de trouver les coupables pour les emmener en justice puis qu'ils soient jugés et emprisonnés. C'était son rêve. Puis ma mère, elle a monté un dossier là-dessus. Elle a fait des recherches à l'Internet, des supposées clairvoyantes qui ont eu la voir, puis des témoins, puis des ci, puis des ça. Elle a tellement rencontré de monde chez elle, là, j'en reviens pas comment il y a eu du monde qui est rentré là.
Ça s'est passé comment avec la police après ça? Est-ce que, tu sais, le soir même, ils vous ont pas reparlé, mais est-ce que le lendemain matin, est-ce qu'ils ont fait des appels à la famille? Est-ce qu'ils ont essayé d'avoir votre, des témoignages?
Les policiers, ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour de la famille, de mon frère, ma mère, mon père. Ils ont pas venu voir moi. Ils n'ont pas été voir mon frère Daniel. Les proches de Valérie, ils ont fait le tour, les amis proches. Puis c'est à peu près tout. Puis quand ma mère essayait d'avoir plus d'informations ou qu'elle-même elle faisait sa petite enquête en dessous, ben ça, ils n'aimaient pas ça, eux autres. Puis ça les achalait. Puis ma mère, c'est pareil comme ça, elle arrêtait dans deux jambes. T'sais? Fait que, puis ils ne nous donnaient pas plus d'informations qu'il fallait. Puis on était tenus dans le noir. Puis là, ça va faire bientôt 7 ans. Puis ils nous ont jamais appelés, là. Ils nous donnent pas d'informations.
À ce stade-ci, on voulait absolument rencontrer le père de Valérie, Sylvain Leblanc. J'appréhendais un peu ce moment-là parce que les amis de Valérie nous avaient mentionné que ça n'avait pas toujours été facile entre elle et son père. On a passé des semaines à réfléchir à notre approche parce que les journalistes nous ont dit que Sylvain Leblanc est assez sélectif dans sa façon de parler aux médias. On a donc appelé la journaliste à qui le père a toujours accepté de parler.
Oui, allô?
Allô, Sabrina, c'est Julien Morissette, ça va?
Hey, ça va toi?
Ben oui, c'est-tu un bon temps pour te parler 2 secondes?
Oui, tu peux y aller, vas-y.
Je t'explique brièvement le projet sur lequel je travaille.
Sabrina Rivet est une journaliste de TVA qui a commencé sa carrière quelques semaines avant le meurtre à Gatineau. Comme tout le monde dans la région, le cas Valérie Leblanc l'a vraiment marqué et l'habite encore.
Ouais, ben non, écoute, ben pour vrai, là, moi, j'ai pas de nouvelles pistes depuis une couple d'années, mais moi, j'ai une bonne relation avec le père. Est-ce que vous lui avez déjà parlé ou...
Non, pas encore. On pensait peut-être passer par toi pour ça.
Ouais, parce que techniquement, écoute, je sais pas pourquoi qu'on a connecté comme ça en guillemets, mais effectivement, techniquement, il trippe pas quand les médias l'appellent. Mais tu dis, c'est drôle parce que moi, j'ai parlé là, à peu près 2 semaines à cause que Pierre-Jean a sorti que le monument dans la forêt avait été vandalisé. Puis tu dis, c'est même pas Pierre-Jean qui l'a approché, c'est moi qui l'ai approché.
OK.
Pour que Pierre-Jean puisse faire son entrevue par la suite.
Le monument dédié à Valérie Leblanc, qui a été payé et installé par sa famille, a été brisé, vandalisé.
Je suis sans mots, je sais pas quoi dire. J'aimerais bien savoir c'est qui. Il donnait ma façon de penser.
Ça, c'est l'extrait d'une entrevue accordée par Sylvain Leblanc au journaliste Pierre-Jean Séguin en juin 2018. La nouvelle est sortie pendant qu'on était en pleine production de la série. C'est la deuxième fois depuis 2012 que quelqu'un se rend dans la forêt pour vandaliser le monument. Et quand ça arrive, les gens de Gatineau sont bouleversés. Sabrina Rivet est venue nous rencontrer pour qu'on parle de son lien privilégié avec Sylvain Leblanc.
C'est drôle parce que moi, la première fois que je suis allée voir le père, en fait, que je pensais avoir identifié un membre de la famille de Valérie Leblanc, c'était, je pense, le lendemain ou le surlendemain du meurtre. Puis il y avait plusieurs membres de sa famille. En tout cas, visiblement, tout le monde pleurait. Puis ce que j'ai fait cette journée-là, c'est que j'ai laissé mon micro de TVA à mon caméraman. J'ai dit à mon caméraman, attends-moi, je vais aller seule, sans micro, sans caméra, rien pour les agresser. Et c'est drôle parce que cette journée-là, finalement, je me suis identifiée. Le père, puis c'est comme ça aussi que j'ai trouvé le père. Et le père m'a dit, ben écoute, pas aujourd'hui, mais il dit juste à cause de ton approche, il dit, je vais me souvenir de toi et un jour, on va se parler plus en profondeur.
L'approche de Sabrina a porté fruit parce que 7 ans plus tard, elle est encore en lien avec lui. On a donc fait un plan de match pour l'entrevue avec Sylvain Leblanc.
Écoute, moi je sais... Premièrement, je le joins tout le temps par Messenger. Mm-hmm. C'est comme tout le temps un petit peu le moyen, il me répond rapidement, puis c'est plus friendly. Ensuite, on se parle par téléphone, mais non, moi je me disais peut-être qu'on pourrait aller dans le lieu qui est le plus significatif pour lui, qui est le boisé.
Ça a changé un peu.
Fait que j'avais passé du pain ici, là.
Quand même, là. Oui, on est passé des jours ici.
Fait que sa passion peut-être pour le bois puis la nature, ça lui vient de vous, peut-être?
Ah, héréditaire de famille.
Ah ouais?
Ouais, possible. OK, on a fait un cœur. Comme je connais ma fille, là, je dirais que c'est tout de suite qu'elle s'écrasait pour faire ses affaires.
Ah ouais?
On est donc dans le bois derrière le cégep, avec Sylvain Leblanc. Il nous a dit que c'était juste la troisième fois qu'il revenait sur place pour faire une entrevue. Sylvain nous a parlé de sa fille.
Ben, premièrement, elle était jeune, elle avait juste 18 ans. Mm. Puis, elle aimait beaucoup les anges. Elle était spéciale, je ne sais même pas combien de langues elle parlait. Elle était beaucoup dans les livres, les anges, ces affaires-là, le passé. Puis, les GN, grandeur nature, mm-hmm. Elle allait là beaucoup, puis elle gagnait tout le temps, puis le monde n'en avait pas de elle.
Ah ouais.
C'est grave, ça, là. Puis, c'est une fille sportive. Elle mangeait bien, puis beaucoup de recherches. Elle avait un deuxième monde. Quand elle était dans sa bulle, là, bien curieuse, puis répondre à ses questions, fouillant.
Ouais. Vous me dites, il y a une question qui me vient.
Après ça, Sabrina a demandé à Sylvain de résumer son 23 août 2011.
Qu'est-ce qui s'est passé?
OK. Tu as soumis mes chums à Perkins.
Mm-hmm.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas la région, Perkins, c'est environ 30 km du cégep de l'Outaouais.
Mais t'as couché pas mal tard.
Mm-hmm.
Ça fait qu'en revenant le lendemain, matin assez tard, proche de midi, je suis arrêté chez une de mes amies à Perkins.
Mm-hmm.
Là, après ça, je me suis rendu chez nous. Là, Val m'a appelé. Puis elle vient me chercher. Ah, Val, donne-moi une heure, s'il te plaît. Faut, je veux juste me reposer un petit peu, puis je vais y aller après. Ah, papa, viens me chercher, en tout cas. Je dis, je vais y aller dans à peu près une heure. Fait que.
Il était quelle heure à ce moment-là? Il était midi à peu près?
Je ne sais pas, j'étais écrasé dans mon lit.
Ouais.
Fait que. Là, ben, that's it. On ne s'est jamais reparlé. Avait fini, était en avance. Puis il y a quelque chose qui l'achalait, je sais pas trop quoi ou qui. J'avais hâte de partir, mais j'étais pas réveillé à 100% parce que j'aurais dû réagir autrement et venir l'acheter. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui narguait.
Elle avait l'air inquiète? Elle avait des problèmes,
ouais,
d'intimidation?
C'est ce que je pense, oui. Puis en temps normal, je serais venu l'acheter, mais là, malheureusement, je suis pas venu, puis that's it.
Mais est-ce que vous en avez déjà parlé, qu'elle avait peut-être été déjà victime d'intimidation?
Elle me l'avait prédit environ 10 mois, un an à l'avance.
En vous disant?
Telle date, il va m'arriver, telle affaire. Comme, qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a tout compté ça par détail, par exemple, si elle savait qu'elle l'aurait déjà vu.
Elle l'a rêvé? Qu'est-ce que c'est?
Non, elle m'a dit que ça y aurait arrivé parce qu'elle savait. Si elle l'a rêvé, peut-être, là, mais je pense pas. En tout cas, elle m'a dit, l'année prochaine, il va m'arriver ça. De demain, tu viendras pas me chercher.
Ben voyons.
Puis, that's it, c'est ça qui est arrivé.
Cet aspect-là de l'histoire donne froid dans le dos. Après coup, Sylvain nous a dit que la police lui avait reproché de dire des choses comme ça. Selon eux, ça aidait vraiment pas l'enquête. Mais on a essayé d'être rationnel et de penser que c'était juste une lubie du père de Valérie. Mais on a fait le saut quand on a rencontré Daniel Soucy.
Donc, Daniel, si vous voulez vous présenter, nous dire votre titre ou votre relation par rapport à Valérie.
J'étais l'ancienne, la dernière employeur de Valérie. Puis à un moment donné, elle était dans ma voiture avec ma fille la plus vieille. Les deux avaient le même âge, s'entendaient vraiment super bien. Et puis, ils jasaient ensemble. Et puis, Valérie a dit, moi, en tout cas, la pire chose qui pourrait m'arriver dans la vie, c'est de mourir assassinée, violée puis assassinée. Là, j'ai dit, ben voyons donc, les filles, on est à Gatineau, OK? Puis ces affaires-là, ça arrive pas. Parler d'autres choses, franchement, vous êtes vraiment démoralisantes.
La mère de Valérie avait dit la même chose le soir du meurtre. On est à Gatineau. Pas dans une grande ville, il n'y a rien de grave qui peut arriver. Quand on a fait l'entrevue avec Daniel Soucy, j'ai eu une impression de déjà-vu. En lui parlant, je me suis rendu compte que j'étais assis dans la même pièce où la dernière photo de Valérie avait été prise la veille de sa mort. Le 22 août 2011, Daniel Soucy organisait un barbecue avec tous ses employés. Daniel a une entreprise d'animation de fêtes d'enfants à Gatineau. Un boulot de rêve pour Valérie qui aime incarner des personnages comme une pirate ou une agente des services secrets. Valérie travaillait pour Daniel depuis quelques mois seulement et elle avait vraiment hâte de rencontrer les autres employés au barbecue annuel.
Notre famille, là, tu sais, même mon mari là, la trouvait cute. Puis, tu sais, la veille de son assassinat, OK, j'avais fait un barbecue d'employés. Je fais ça chaque année à Noël, barbecue d'été. Puis Valérie était venue. Bon, premièrement, là, pour cette party-là, c'est que Valérie arrêtait pas de me dire « Quand est-ce qu'on fait le barbecue? Je veux rencontrer tout le reste de la gang. » On était une grosse gang, là, plus qu'une vingtaine, puis tout ça. Fait qu'elle dit « Quand est-ce qu'on fait le barbecue? » Daniel, elle me harcelait avec ça. Puis, ça s'est donné que le barbecue, c'était le 22 août. OK? La veille, fait que elle est venue. Mais, autant qu'elle avait hâte, elle me texte, puis elle me dit « Finalement, Daniel, je peux pas venir. » J'ai trouvé ça vraiment weird. J'ai dit, hey yo, c'est parce que tu m'en sens à chalet, t'as besoin de te présenter. Tu sais, on se parlait de même. J'étais comme vraiment quasiment une relation, ma fille avec elle. Elle dit, OK. Elle dit, je vais arriver en Bessic. OK? Bon, ben, j'ai dit, c'est bon. Mais j'ai dit, t'as besoin de venir. Puis elle est arrivée tard. Puis c'est ça qui m'a surpris parce que, tu sais, elle avait tellement hâte de rencontrer Blanche-Neige, Cendrillon, toute la gang, que ça m'a surpris qu'elle arrive tard. C'est sa première journée de cégep, je pense, le 22. Fait que elle est arrivée tard, puis elle avait son BC. Puis là, il fallait qu'elle reparte de bonne heure parce qu'elle avait quelque chose le lendemain matin au cégep, il fallait qu'elle soit là tôt. Puis là, j'ai dit à mon chum, « Minou, veux-tu aller reconduire Valérie? » Fait qu'il est allé la reconduire chez elle, parce qu'on laisse pas une petite fille marcher ou se promener en bicycle en soirée toute seule. Là, t'sais? Fait qu'une bonne chance que sa mère l'a vue le lendemain matin, parce qu'il aurait été le dernier à la voir. Ça m'a frappé qu'elle, qui avait si hâte de venir, arrive tard, puis doit repartir plus bonheur. Il y a quelque chose, OK, qui est arrivé cette journée-là à Valérie qui l'a bouleversée. Parce que Valérie, c'était un bout en train, puis elle aurait jasé avec tout le monde, tout ça, puis tu voyais qu'il y avait quelque chose.
Daniel nous a aussi dit un truc surprenant lors de notre rencontre. À ce point-ci de nos recherches, la majorité des gens disaient que c'est Jérôme qui a mis un terme à sa relation avec Valérie le jour du meurtre. Mais Daniel Soucy, que plusieurs ont identifié comme la confidente de Valérie, a une autre version de l'histoire.
Elle m'avait dit... Elle avait pas l'air vraiment dans son assiette. « Valérie, qu'est-ce qui se passe? » Ah, oh, elle dit, « Il faut que je veux laisser mon chum. » Je dis, « Pourquoi? » Moi, j'ai jamais rencontré son chum. Pour moi, là, c'était comme... OK. Contrairement aux autres petites filles, mais... Tu sais, ça faisait pas un an qu'elle était avec nous, là. Elle dit, je veux le laisser. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, c'est parce qu'il fait des affaires avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. J'aime pas ça. Je dis, je pense que c'est des affaires de drogue ou des affaires de même. Puis elle m'avait juste comme répondu vaguement, là, tu sais, comme genre, il fait des affaires que je n'approuve pas.
C'était pas la première fois qu'on nous parlait de sa relation houleuse avec Jérôme. Sylvain, le père de Valérie, l'appréciait pas particulièrement.
On n'a jamais parlé de son chum. Je l'aimais pas.
Oh non. Tu le connaissais-tu?
Je l'ai vu, puis première fois que je l'ai vu, je l'aimais pas.
Pourquoi?
Un feeling qu'on a des fois quand on voit quelqu'un. Ouais.
Puis après les faits, il veut pas reparler.
Non, mais une affaire que j'ai pas aimée, c'est qu'à l'enterrement de la petite, il y a une petite cuisine dans le fond de... Les bancs sont là, le monde s'en va parler, puis dans le fond à gauche, il était dans la petite cuisine, lui puis 3-4 personnes s'arriaient comme des fous, puis gros sur... Après comme être assis une game de poker, puis on se compte des jokes ensemble. Mm. Hey man, c'est l'enterrement de ta blonde.
Ouais. Et vous, est-ce que vous avez déjà offert ses condoléances, ou as-tu été gentil après?
Non, il a peur de moi, sauf. Ah. Il a peur de moi, mon frère Yves.
Vous avez parlé à la police de ça?
Eux autres, ils m'ont jasé pas mal. Je pense que j'ai tout dit qu'est-ce que je pouvais imaginer.
Mm. Que vous ne trustez pas son chum?
Ah, ça, il n'y a pas grand monde qui le truste.
Dans le prochain épisode de Synthèse, on essaie de convaincre Jérôme de faire une première entrevue sur la mort de Valérie Leblanc.
Il répondra peut-être même pas. Là.
Hello? Salut, Jérôme?
Ouais?
Salut, c'est Steven Boivin. Je sais pas si tu te souviens de moi.
Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Steven Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. La musique est de Francis Faubert. L'habillage sonore est signé Steven Boivin et Julien Morissette. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info@commercial.transistor.media.